Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tabissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le ventre. Bonne écoute.
T'as pas des gens, des femmes qui t'offrent de la nourriture parfois ?
Bah, en fait, c'est déjà arrivé, mais tu sais, moi, enfin, ils le savent, je crois que je leur ai déjà dit, mais tu sais, moi, je suis complètement parano, en fait, donc je peux pas manger un truc.
À part qu'on t'empoisonne ?
Ouais, je le dis clairement, mais j'ai essayé de le dire avec plus de nuances, mais en fait, je crois que c'est ça. Non, mais je sais qu'on va. A priori, il y a peu de chance. C'est un peu flippant, tu vois, mais même les. Mais je pense, depuis que je suis petite, hein, c'est pas tellement un truc, genre, c'est pas lié, genre. C'est pas, je crois que je suis John Lennon et que ça intéresse beaucoup les gens, mais c'est que je trouve que c'est quand même beaucoup de confiance, c'est comme prendre l'avion, quoi.
Je suis sur les marches de l'église Saint-Roch, dans le 2e arrondissement de Paris, et j'attends Nora Hamzaoui. Je lui ai pas encore dit où on allait pour créer un petit suspense, mais j'ai évidemment fait mon enquête en amont, comme on dit, et j'ai repéré qu'elle aimait les pâtes et les sushis de qualité. À part avoir très bon goût, Nora est comédienne et humoriste. Elle tourne d'ailleurs en ce moment dans son spectacle éponyme, Nora Hamzaoui. J'aimerais bien vous faire un résumé, mais c'est pas mon fort. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vue deux fois et qu'à chaque fois, j'ai énormément ri. Tiens, la voilà. Je la vois qui sort de son taxi.
Ça va ? Ouais.
Bon.
Bah, je voulais pas te donner l'adresse.
Oui, j'ai vu que tu voulais pas faire
ça. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que ça fait pas un peu trop, tu vois ? Parce que si tu vas dans un truc pourri, tu vas t'attendre à un truc...
Ah, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que t'as pas déçu ?
Trop... Est-ce que toi,
on enregistre
tu...
déjà, ouais. Là.
Est-ce que t'as imaginé quelque chose ?
En fait, on me surprend jamais, enfin très rarement, parce que c'est toujours moi qui décide d'où on va aller, parce que j'ai un problème de contrôle, parce que je veux absolument bien bouffer.
Eh ben, on va... J'adore. On va là, chez Matsuda. Est-ce que tu connais ?
Je connais pas du tout Matsuda. Je suis vexée parce que je suis passée devant en taxi tout à l'heure. Et j'étais là, je suis sûre que c'est un truc par là. Et j'en connais aucun en fait ici. Je crois que je suis jamais allée dans aucun resto de cette rue en fait.
Bonjour. Est-ce que tu prends souvent des bateaux quand tu vas manger des sushis ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, là, ça m'a fait une petite nostalgie. Ça m'a rappelé les tout premiers, mes tout premiers émois de sushis dans les rues, genre rue Monsieur le Prince. J'ai l'impression que c'est là-bas que j'ai commencé à aller manger des sushis. Et il y avait donc... ces bateaux, les menus bateaux avec quelques brochettes à côté.
Mais moi, je pouvais jamais trop me les permettre. Enfin, je regardais un peu les gens qui prenaient les bateaux et je me disais, ouais, ils se font pas chier.
C'est un peu la gamme, ouais, c'est un peu, tu te fais plaisir. Toi, tu prenais brochette, bœuf au fromage, c'est ça que t'es en train de me dire ?
Moi, je prenais un combo, je pense, brochette, bœuf au fromage et sushi. Il n'y avait pas encore les sushis au fromage au tout début, les makis au fromage. Je pense que ça, tu vois, au tout début, ça arrivait peut-être un peu après.
Ouais. Et les brochettes, bœuf au fromage, c'est dégoûtant, mais c'est délicieux. Hein. C'est vraiment très cochon, mais c'est délicieux.
Vous avez votre sushi ?
Oui.
Qu'est-ce que vous prenez ?
Le sushi supérieur.
D'accord.
Pour deux.
Deux fois ?
Ouais.
Très bien.
Toi, Nora, est-ce que tu as toujours aimé bien manger ? Est-ce que tu as toujours aimé manger, en fait ?
Non.
Je croyais que tu allais me dire oui, j'étais un enfant très gourmand.
Pas du tout. Je m'intéressais pas du tout à la bouffe, mais parce que je pense que j'associais... Mais je pense comme plein d'enfants, j'associais la nourriture à passer à table. Donc... traîner avec des adultes chiants, quoi. Et je parle de la bouche pleine, mais j'imagine que c'est totalement toléré dans ce podcast.
Est-ce que ça te dérange, par contre ?
Un peu, ouais. Je te cache pas qu'un peu, ouais. Et ouais, non, je n'aimais pas tellement manger.
Mais déjà, j'aimais pas être à table. La nourriture me dégoûtait. Beaucoup de choses me dégoûtaient. Beaucoup de choses. Notamment la viande, le veau, plein de choses. Quoi, plein de choses.
C'était parce que c'était des bébés animaux ou c'était même...
Non. Non, c'était vraiment la matière, la mâche. Mais j'ai encore gardé un truc un peu, un rapport spécial à la mâche de l'animal. Donc, je sais pas, plein de choses me dégoûtaient. Ou genre l'eau qui ressort des aliments, l'aliment qui se transforme. Mais après, genre la texture d'un dragibus m'avait jamais posé de problème et tout. Mais c'est vrai que la chair, j'aime pas quand ça mâche, quoi. Je me souviens, mon frère me disait d'ailleurs mâche, avale, bois. Puis en plus, c'est une autre époque, hein, fallait finir son assiette et tout. À la cantine, fallait finir son assiette. Pour moi, c'était un calvaire, quoi. Mais c'est aussi parce qu'il y avait tout le temps des engueulades à table et tout. Donc à table, vraiment, moi, je voulais fuir.
Dans tes interviews, tu dis souvent que t'avais une ambiance un peu triste quand t'étais petite à la maison. Enfin, c'était pas très gay, quoi.
Bah, c'était un peu. Je dirais que c'est un peu tragicomique, quand même, parce que je pense que c'est triste dans la mesure où c'est. Les faits sont tristes, tu vois. On est en deuil, on n'a plus notre père. Ma mère est quand même dépressive, veuve avec 4 enfants. On parle pas, enfin en tout cas on parle pas de ça, on parle de merde quoi, de rien. Enfin, donc tout est un peu bizarre et puis on arrive dans cet appartement qui, enfin toute l'ambiance est en effet assez pesante et tout. Et donc les moments à table, bon après ça va parce que c'était une époque où on regardait beaucoup la télé en mangeant, donc on regardait Madame est servie ou je sais pas quoi, ou enfin tout ce qui pouvait passer à la télé, donc ça a évité qu'on se parle trop.
Et donc entre frères et sœurs, vous vous marrez pas un peu à table, enfin
bon, je sais pas, on a beaucoup d'écart quoi, donc moi je suis la plus jeune. On a... Bah si, franchement je me souviens que quand on se marre, parce qu'on a quelques fous rires nerveux, mais notre mère est obsédée par l'étranglement. Donc dès qu'on se marre, elle dit tu vas t'étouffer, donc on n'avait pas le droit de se marrer. Et sachant qu'elle est obsédée par l'étranglement, mais qu'elle s'étrangle 3 fois à chaque repas. Elle s'étrangle aussi la nuit en dormant, enfin je pense que c'est une anxieuse. Mais là c'était purement de l'angoisse où tout à coup elle se met à s'étrangler même si elle mange pas quoi. Et il y a un gros moment de tension à table où tout le monde la regarde en se demandant si bah, elle va y passer ou pas. Et elle n'y passe pas parce que chaque fois finalement, mais sauf que tu peux rien faire dans ces cas-là. D'ailleurs, quand les gens s'étranglent, c'est toujours un moment très gênant. Tu sais pas si tu dois continuer à manger ou à leur montrer que tu as observé qu'ils s'étranglaient, genre être en empathie, arrêter de manger parce que c'est à la fois hyper mal élevé, genre continuer à bouffer comme si de rien n'était. Et en même temps, moi quand je m'étrangle, j'ai pas envie que tout le monde s'arrête pour me regarder. Donc t'as envie que les gens continuent à manger. Et puis à la fois, tu leur proposes de l'eau, tu leur dis tu veux un verre d'eau, mais comme ils s'étranglent, ils ont pas la force de te dire oui ou non. Enfin, c'est un moment très chiant quoi. Et un de mes trucs vraiment d'enfance, un moment que je détestais familialement, mais pour le coup où j'arrivais vraiment à dissocier la famille et la bouffe, c'est quand notre mère nous emmenait au relais de l'entrecôte. Et là, franchement, la sauce de l'entrecôte, les frites. Bon, j'ai lâché l'affaire, l'idée de faire la sauce de la viande de l'entrecôte, je n'y arriverai pas. Et de toute façon, enfin.
Une sorte de béarnaise ?
Non ! Je sais. Pardon.
Mais un peu genre mayo ?
Non. C'est genre, je sais pas, on dirait qu'il y a du safran, du curry, de l'anchois, énormément de beurre, un truc, je sais pas, c'est un truc marron, je sais pas ce que c'est. C'est délicieux.
Hormis la bouffe, t'étais quel genre d'enfant ?
Oh ! De la soupe miso.
Miso.
C'est délicieux, hein ? J'étais quel genre d'enfant ? J'étais une enfant qui était très pressé de grandir. Donc j'étais que dans la projection... Et dans l'attente de mon... Vraiment, je pense que je faisais des vœux tous les jours pour que ça passe plus vite. Non, pas que c'était pas si... Enfin, je m'entendais bien avec mes frères et sœurs, ça va et tout, mais je me suis pas intéressée à l'école, Je sentais que qu'il fallait vite s'amuser, quoi. En plus, quand t'es petit, je trouve que... Notamment au collège, au lycée, où on t'éduque vachement, hein, bah, plus tard, ça va être très chiant, tu vois. Or... Enfin, moi, j'ai toujours eu l'instinct que non, que ça pouvait être aussi... que c'était un peu la liberté. J'avais donc très, très hâte d'être libre. Donc, j'étais une enfant qui... Voilà, qui avait hâte de ça et qui observait beaucoup les autres, quand même, et qui observait beaucoup les dysfonctionnements et qui essayait de créer la paix. J'étais un peu médiateur, quoi, médiatrice de tout ça.
Merci. Tu vas pouvoir me décrire.
C'est pas un bateau, hein.
Non, c'est un peu déçu. Mais peut-être que j'ai...
C'est pas un bateau, c'est
que je suis destinée à jamais avoir de bateau de ma vie, quoi. C'est pour les autres. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait quelque chose qui peut-être est signe aussi d'un resto à sushi un peu supérieur, c'est qu'ils ont mis le wasabi directement dans, enfin en tout cas dans les makis, je vois.
Ouais.
Tu vois là, c'est du wasabi.
Ouais. Là, c'est bon.
Et ça, ils font ça généralement dans les bons japonais. Ils te mettent pas ils te dosent eux-mêmes, non ?
Ouais.
toujours très bon signe.
Celui-là est délicieux. Là.
Celui-ci ? Et ah oui, voilà, je voulais arriver à ton indépendance. Mmh. Donc, tu avais très envie de partir de chez toi. Mmh. À quel âge t'es partie de... T'as habité toute seule ?
Tard. Attends, après mon bac, j'ai fait un IUT. Et après, j'ai été prise au CELSA. Ma première année au CELSA, donc j'imagine vers... Mais j'avais redoublé, j'imagine vers peut-être 21 ans, 22 ans.
C'est pas si tard.
Ah bon ? Non, c'est pas si tard.
Et à ce moment-là, donc tu dis que tu as fait un IUT et le CELSA, tu te dis pas que tu vas être comédienne
Si
tu as déjà envie.
Mais comme je suis la seule à me le dire, finalement, peu importe.
Donc tu prends des cours quand même de théâtre
Je prends des cours. En fait, je fais mon premier cours de théâtre en CP. Mais j'arrête suite à un trou que j'ai au spectacle de fin d'année en Jean le Petit Prince. Et je trouve que vraiment... Je trouve qu'on m'en parle beaucoup à la maison, je trouve ça pas drôle du tout.
Ah, on te dit, t'as eu un trou.
On me refait la phrase du moment où j'ai eu le trou. Genre, on me dit, que veut dire éphémère ? Et en effet, c'est la dernière phrase que je dis en spectacle, après, je dis plus rien, quoi. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit que je ferais pas carrière là-dedans, que c'était trop humiliant que les gens commentent mes échecs. J'ai repris en première, à l'époque où il y avait ce documentaire sur Canal, Cours Florent, là. Je sais pas si tu te souviens de ça. De filmer des gens Cours Florent. Qui étaient tous très très beaux et très très cool et qui voulaient être comédiens. Je fais ça. Mais donc j'ai envie de me barrer de chez moi. Mais en gros, je dis à ma mère que je vais être comédienne, mais elle me dit bah, fais ce que tu veux, mais moi je t'aide pas. Donc tant que t'es pas indépendante financièrement, tu vivras à la maison. Donc pour moi, l'idée du cauchemar. Pas vis-à-vis d'elle, mais vu que je rêve de partir depuis toujours. Donc je fais des études, je fais des petits boulots, je fais des trucs, mais tout en faisant ouais, du théâtre à côté. Et en me disant un jour quelqu'un va me trouver, tu sais, dans la rue, il va dire mais attends, mais c'est qui cette meuf super et tout. Une sorte de casting sauvage de Pygmalion qui serait tombé sur mon jeu intime. Et c'est pas arrivé. Et donc du coup, à force que ça arrive pas, à un moment je me suis dit attends, on est à la veille de la fin des études. Si ça continue, je vais travailler dans un cabinet d'études Quanticali. Et donc là j'ai écrit mon one-man.
Mais du coup, ça veut dire que t'es pas timide, quoi. T'es assez...
Si, je suis timide.
Ouais. Je me suis toujours demandé ça. Comment on pouvait être et timide et vouloir être comédienne.
J'en fais pas une vérité générale. Je sais pas comment font les gens. Mais moi, pour moi, c'était plutôt une fuite, quoi. C'était plutôt un truc qui me permettait d'être dans le jeu, dans le double, dans l'humour, dans... Ouais, dans le jeu, un truc vraiment d'enfant, je pense.
Ton premier one-man show. Et là, tu choisis ça parce que c'est une façon de pouvoir l'écrire toute seule, te produire toute seule et pas attendre qu'on vienne te chercher.
Ouais, il y a un espèce de truc où... Oui, parce qu'initialement, je vais être comédienne, mais c'est vrai que je pense pas forcément au one-man show. Et donc, c'est ma meilleure amie au moment où je suis dans ce truc d'études Quanticali, là. Et en rupture amoureuse, où je lui dis vraiment, en fait, tout est de la merde, là, parce que j'avais pas du tout prévu ça comme ça, mon avenir. Qui me dit, fais-toi jouer et n'attends pas qu'on vienne te chercher. T'as un goût pour ça, t'as un goût à te raconter. Ouais. Et donc je me dis, bon, ok, et c'est vrai que j'ai plein de textes et je ne sais pas d'où ils sortent en fait. Ça, par contre, j'ai jamais réussi exactement à l'analyser, mais j'ai plein de textes.
T'as toujours écrit ?
Ouais, j'ai toujours écrit dans un journal intime et tout. Mais là, c'est même plus dans un journal intime, parce que ça, c'est vraiment ma petite enfance, le journal intime. Mais je sais pas, je pense que j'ai créé des trucs en me disant, je savais pas pourquoi. Et donc, du coup, oui, je pense que le truc du stand-up, en fait, il était très logique dans le besoin d'indépendance, de pas. Enfin, du one-man show, de pas attendre qu'on vienne me chercher, de pas attendre de plaire à quelqu'un. Enfin, faut plaire à ton public, mais à part ça, ça va. Et après, j'ai vécu une longue période un peu chiante, justement, que je comparais un peu à toutes ces relations amoureuses où, au lieu de profiter de la relation amoureuse, tu passes ton temps à te demander si tu vaux le coup, si on va te quitter, si la personne veut te quitter, si elle pense à d'autres choses, si elle préfère d'autres gens. Et je pense que j'étais dans cette même immaturité émotionnelle, mais dans un truc professionnel, où je me concentrais que sur les autres, sur le succès des autres, où je vivais les succès des autres comme moi des échecs personnels, où je bossais aux Galeries Lafayette, où je remplissais pas mes salles le soir, je voyais les autres qui marchaient. Et donc, et là, ça a été très chiant parce que je me disais, à la fois, j'aimais ce que je faisais. C'est-à-dire que pour autant, j'ai jamais, moi qui ai une tendance à pouvoir vraiment lâcher vite un truc si ça me fait chier, pour autant, je ne lâche jamais. Donc, ce qui veut bien dire que c'est un truc d'endurance et un truc où, en tout cas, je veux faire ça. Mais je me dis, c'est pas possible de pas y arriver mieux, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu 3-4 ans comme ça, 3-4 ans de rien.
Après, j'ai fait l'émission de Ruquier, horrible. C'est une émission où des humoristes vont, on me propose de faire ce truc et je me dis, bah, faut que j'arrête de vivre caché, tu vois. Faut que j'arrête d'avoir peur des risques et tout. Faut peut-être que je le fasse parce que je vois des gens qui arrivent et qui le font. Donc, je me dis, vas-y, tente. Mais en fait, le principe de l'émission, c'est en effet, on te donne des thèmes, t'as plusieurs thèmes et tu dois écrire un sketch de 4 minutes sur ce thème. Et je fais ma première fois et comme je m'en fous, comme d'habitude, de mes premières fois, ce qui est une constante chez moi, ça se passe bien. Et du coup, je me dis, ah cool. Bah, et quand j'y retourne, et en fait, ça se passe de plus en plus mal. Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis infantilisée, qu'on me juge, qu'on me dise ce que je dois faire. Tout ce que j'ai détesté, et à l'école, et chez moi, et de devoir me comparer aux autres, et me dire, et devoir plaire, ce qui est vraiment pour moi un truc qui est à l'opposé de ce que doit être le travail, je pense, artistique globalement, mais encore plus, je pense, humoriste. Mais je fais un sketch nul. Le thème, c'était une jeune femme reçoit son premier César, je crois. Je fais genre, je m'entraîne dans ma chambre à faire un discours. Et je remercie Jean en disant « Jean m'a dit, tu viens t'apprendre à qui c'est attendre. » Et je réponds à ma copine imaginaire en disant « qui me dit, c'est qui Jean ?» Et je dis « j'en sais rien, au mieux les gens pensent que c'est Jean du Jardin, au pire les gens pensent que c'est Jean Benguigui. » Et Jean Benguigui n'apprécie pas du tout. Buzz et dit qu'au-delà du fait que la blague n'est pas drôle, que je suis extrêmement mauvaise et tout. Et c'est vrai que je suis mauvaise. Pour ma défense, je trouve qu'on est tous extrêmement mauvais parce que, en fait, au-delà de notre texte et tout, en fait, c'est très moche. La réal est atroce, la prod est atroce, tu descends des marches sur une musique ringarde, t'as des plans de coupe sur un jury qui fait une gueule pas possible, t'es noté à la fin, enfin, tout le concept est ignoble. Mais bref, il me dit qu'il faut que j'arrête ce métier, que vraiment je suis une merde, que je sais pas porter une robe, enfin, après, ça commence à devenir des critères physiques et tout. Et en fait, le lendemain, j'arrive vraiment au boulot. J'étais chez Glamour à l'époque. Je pense que tout le monde avait vu. Et on me disait, mais ça va, les gens se marraient et tout. Ils disaient, c'est pas grave, quoi. Et moi, vraiment, j'avais honte de tout, quoi. J'avais honte parce que je suis ni journaliste, ni, en plus, ce truc de presse féminine, j'en ai rien à foutre. Ni je remplis mes salles, ni je suis comédienne, ni je suis mariée. En fait, je suis rien, quoi. Je suis vraiment alors la meuf qui zone en espérant quelque chose. Et c'est insupportable. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut arrêter. Donc, j'ai quitté mon boulot en me disant, faut que j'arrête d'avoir cette espèce, en effet, de volonté molle où toute mon enfance, j'ai cru à un pygmalion, un mec, un truc, quelqu'un qui allait me trouver. Je pense que de la même manière, on me disait, t'es formidable, je le croyais. Tu me disais, t'es une énorme merde, je le crois aussi. Et je me suis dit, à un moment, c'est à moi de prendre mes décisions. C'est plus, j'ai pas à écouter les gens qui me trouvent soit charmante, soit horrible, soit géniale, soit atroce. Il faut juste que moi, je fasse mon truc. Et donc, j'ai quitté mon boulot et j'ai écrit mon nouveau spectacle. Je me suis donné un été pour l'écrire. Et après, j'ai trouvé mon producteur. Et là, ça a commencé et tout. Mais je pense que c'était, du coup, en 2013, je pense.
Il y a un peu ce truc-là qui est, je trouve, dans beaucoup de tes sketchs et de tes spectacles, de remettre en cause ce que serait la réussite pour la majorité des gens de la société.
Ouais, c'est marrant, un peu à ce moment-là, parce qu'en fait, je n'avais jamais pensé comme ça, mais c'est un peu vrai. Je pense qu'en effet, il y a un truc de vouloir... Il y a en tout cas une volonté de dire que... Moi, plutôt qu'employer réussite, j'aurais peut-être employé le mot norme ou épanouissement, mais de dire qu'en effet, ça ne passe pas du tout ce par quoi on te fait croire que ça doit passer, ou par... Tu vois, même par exemple, sur la sexualité, sur le couple et tout, c'est des sujets qui m'intéressent vachement, ou sur l'intime.
Que tu joues, c'est une nana, tu l'imagines, qui adore boire du vin, bouffer du fromage, être un peu dans l'excès. Ça, c'est pas nécessairement toi.
Je pense que ça l'était sur le premier spectacle. Sur le deuxième spectacle, je pense que je renvoie un peu moins cette image parce qu'elle a moins des trucs de bouffer d'alcool. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le deuxième spectacle, je le dis à un moment quand je dis que je suis mère et qu'il y a quelqu'un qui me répond « Non, putain, t'as tellement la gueule de la meuf qui picole en terrasse ». Et qu'en effet, je pense que t'as des gens pour qui... Quand j'ai commencé mon deuxième spectacle, j'ai vraiment eu un truc où les gens... J'avais le sentiment que sur mon premier spectacle, j'avais que des meufs, c'était que un truc. Toutes les meufs étaient les mêmes que moi, on était toutes les mêmes dans la salle. Et sur le deuxième spectacle, c'est beaucoup plus large. Il y a autant d'hommes que de femmes, il y a tous les âges, enfin, c'est beaucoup plus large. Et tant mieux, moi, ça me fait hyper plaisir. Mais du coup, j'ai senti que les premiers fans qui étaient dans la pure identification, ils étaient, attends, mais d'où, en fait, elle a un enfant et elle n'est pas en train de picoler, en train de parler de son célibat, en bouffant des... Alors que ce qui est bizarre, c'est que dans le premier spectacle, je n'ai jamais dit que j'étais célibataire. Et j'ai jamais été célibataire, d'ailleurs. Mais de ma vie, je pense. Donc, ça ne veut pas dire que je galère pas, en plus. Hein. Ce n'est pas parce que tu es un mec que tu galères pas. Au contraire. Mais ça m'a fait le même truc où un jour, je crois que c'était à Cabourg. J'avais reçu un prix à Cabourg et je portais un crop top. Et les gens m'ont dit, ouais, enfin, ça va. Genre, en gros, t'es assez bon, quoi. Ton ventre, il est plat. Pourquoi tu nous fais chier à nous dire que t'es flemmarde dans ton spectacle? Et je suis là, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Déjà, en plus, tu ne sais pas quelle gaine je porte et à quel point je respire pas sur cette photo. Donc,
C'est qu'on n'a pas, on a quand même envie que tu sois un peu
galérienne.
Moi, je pense que tout est galérienne. Moi, je trouve ça extra. Là, si j'ai arrêté le lactose et le gluten, c'est pas parce que je suis devenue une femme élégante. C'est parce que sinon, je fais
au contraire
et que je pète quoi. Donc, tu vois, c'est quand même ultra galère aussi quoi. Donc, et il y a un moment où j'ai juste compris en fait que c'était pas nécessaire d'avoir d'ouvrir. Ça, c'est vraiment un truc extrêmement nouveau. S'il y a des gens qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent comme moi, sauf si ça se trouve, j'étais la seule débile à pas comprendre. Mais moi, je croyais que c'était normal d'ouvrir le bouton de sandwich à la fin d'un repas. Je me disais, c'est normal que tu aies. Et en fait, non. Donc,
moi qui travaille quand même dans la bouffe, j'ai mis du temps à comprendre le lien entre un ventre énorme et par exemple une mauvaise pizza, tu vois.
Bah oui! C'est dingue.
En fait, quand tu arrives à le comprendre, c'est quand même fascinant de voir l'effet de la nourriture sur ton corps, très immédiat.
Complètement. Et même sur, tu vois, des variétés de pâtes, tu vois, sur des variétés de pâtes. Moi, je peux te dire, je suis fan de Barilla. J'aurais pu être égérie Barilla s'il me l'avait demandé. Mais en fait, j'ai explosé. J'avais l'air d'être enceinte de 6 mois à chaque fois que j'en bouffais.
Vous pouvez débarrasser.
Oui, bien sûr.
C'était bon, hein. Merci beaucoup.
C'était bon.
Oui.
Merci.
Oh, comme c'est joli, de délicieux.
Merci.
C'est
mignon.
Ah ouais, c'est très mignon.
T'as bonne mine, non?
Ah bon, on se trouve.
Tu trouves que t'as la fatigue?
Bah, je sais pas, mais comme ça fait un mois que je tousse et que je suis hypocondriaque, je me dis, mais est-ce que ça se trouve, les gens, ils se disent, bah oui, j'avais vu qu'elle avait l'air hyper fatiguée.
Vous passez à quelque chose après?
Oui. Voilà, un podcast super de nourriture.
Ah oui. Ça s'appelle Dans le ventre.
D'accord. Nora,
elle est humoriste, comédienne.
C'est vrai?
Oui.
Ah, c'est super.
Ouais. Vous avez une belle peau, vous, hein?
Ah bon?
Ah ouais.
Merci beaucoup.
Oh là là, bien sûr.
C'est vrai?
Vous avez quoi comme crème? Vous mettez de la crème?
Oh, pas tellement, hein, vous savez.
Ah bah c'est les gènes alors.
Oh, c'est bien pris.
Bah, je vous en prie.
Merci beaucoup. Arigato.
Merci.
Au revoir.
Comme vous l'avez entendu, c'est vraiment délicieux chez Matsuda. Je vous recommande vivement d'aller y déjeuner. Je vous recommande aussi, évidemment, d'aller voir le spectacle de Nora Hamzaoui. Toutes les dates sont sur son site. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
J'ai acheté un cep, une fortune. Ça coûte cher, ces merdes. Je suis rentrée chez moi extrêmement heureuse de couper un cèpe, et c'était un cèpe véreux. Et il y en avait genre... franchement, il y en avait 1000, quoi. Et là, ça a été pour moi un cauchemar. Un cauchemar. Et j'en ai plus mangé pendant... J'en ai plus mangé, en fait. Je crois que j'en ai pas remangé. Ça fait, je pense, 8 ans que j'ai pas mangé de cèpe. Et le pire truc, c'est que j'ai raconté ça à une amie qui travaillait dans un resto et qui m'expliquait que c'était totalement normal. Et qu'en en fait, il y avait une technique d'étouffement au cellophane, et que les cèpes se collaient au cellophane, qu'après tu jetais le cellophane et qu'après tu bouffais le cèpe. Et là, franchement, là, ça veut dire que vraiment, ça veut dire qu'on se moque du monde, quoi. Ça veut dire, enfin, franchement, ça... Et franchement, à chaque fois que je lis sur une carte, genre risotto au cèpe, nanana au cèpe, je me dis, ouais, ils foutent bien de notre gueule en cuisine.
En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
Vous venez d'écouter un épisode de Dans le ventre, un podcast Sony Music France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.